VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, l'opposition a annulé sa marche prévue jeudi, tout en appelant à trois nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé. Les précisions de Morgane Guillouyec.
Nous avons annulé notre marche de jeudi car nous souhaitons manifester deux ou trois jours d'affilée, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de 14 partis d'opposition qui organise des marches quasi hebdomadaires. Des manifestations qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes depuis début septembre pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et le départ du président Faure Gnassingbé. Les opposants ont également dénoncé la stratégie de la terreur dans les villes du Nord, où une quinzaine de manifestants et deux militaires ont été tués. Après des mois de mutisme, M. Gnassingbé a annoncé la tenue d'un dialogue avec l'opposition d'ici à quelques semaines, mais l'opposition maintient la pression. Elle réclame des mesures d'apaisement, notamment la libération des personnes détenues, la levée de l'état de siège et le retour des militaires dans les casernes comme préalable à toute discussion.
Au Niger, les magistrats ont entamé ce mercredi un mouvement de grève de 72 heures à l'appel de leurs syndicats. Ils entendent ainsi protester contre la lenteur dans l'adoption du projet de statut révisé de la magistrature qu'ils attendent depuis 6 mois. Au micro de notre correspondant Niamey Abdulrazak Idrissa, les explications d'Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN.
Cette grève, effectivement, ça fait suite à notre préavis qu'on avait déposé il y a 2 semaines de cela pour protester justement contre le comportement du gouvernement par rapport à notre projet de statut qu'on a eu à travers le texte. Donc, il y a plus de 6 mois de cela. Donc, on pensait que le gouvernement allait adopter donc ce texte-là dans les meilleurs délais. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce texte-là n'est pas adopté. La risque qui a été trouvée, justement, c'est d'envoyer ce projet de texte au niveau du Conseil d'État pour un simple avis consultatif. Donc, nous, on a compris qu'effectivement, c'est pour gagner du temps et notre base nous accule, donc elle ne comprend pas que le BEN ne dit rien, alors même que ce statut-là est important, ça permettra quand même de corriger une injustice qui est faite au magistrat, notamment par rapport, par exemple, à la pension de retraite. Parce que le magistrat doit cotiser pendant 25 ans pour pouvoir donc prétendre à jouir de sa pension de retraite. Contrairement aux fonctionnaires ordinaires, eux, il faut juste 15 ans. On a travaillé avec le ministre pendant 2 jours, on ne s'est pas entendu, parce que c'est qu'il n'y a rien de concret. Donc vraiment, la lutte continue, parce que c'est 72 de grève. Peut-être que pendant cette période, ils vont profiter pour nous appeler.
Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger. La lutte contre les djihadistes en Afrique maintenant, les Nations Unies travaillent avec les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et du Tchad pour encourager les communautés à réintégrer les ex-combattants repentis du groupe islamiste Boko Haram et les personnes qui avaient été prises en otage par cette organisation. Mais l'initiative fait face à beaucoup de résistance. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, récit Solange Niamoulissa.
Près de 200 femmes et enfants vivent dans le camp de Fortine à Kolofata, dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Ils disent être d'anciens combattants repentis de Boko Haram. Les femmes expliquent que la plupart d'entre elles ont été capturées et prises en otage dans la forêt des Sambisa, où elles affirment qu'elles servaient de cuisinières, soumises à des viols ou esclaves sexuels. Elles disent qu'elles ont été enrôlées de force comme combattantes, espionnes de Boko Haram. Elles affirment aussi que leurs fils ont appris à combattre et les filles sont devenues des kamikazes. Adji, 34 ans, mère de 3 enfants, ancienne combattante, confie qu'elles ont été libérées du camp d'entraînement de Boko Haram par les troupes du Cameroun, Tchad et du Nigeria qui avaient lancé une opération 3 semaines consécutives en mai 2017 dans la forêt de Sambisa. Elle a perdu sa fille pendant ces attaques. 2 autres de ses enfants étaient partis pour une mission kamikaze et ne sont jamais revenus. Elle-même assure être revenue à la maison, espérant trouver la paix, mais par contre, elle fait face à la violence des gens qui se méfient d'elle et que son cauchemar se poursuit.
Ils ont mis le feu à la maison, tout a brûlé. Heureusement, je n'étais pas à la maison. J'étais au marché. Je suis venue ici sans aucune pièce. Je n'avais que la copie de ma carte nationale d'identité.
Boko Haram recrute de milliers de jeunes du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger. Mohamed Djamil, président de Jeunes musulmans nigériens, dit que les communautés devraient accepter les anciens combattants et arrêter de les stigmatiser. Il a déclaré que les militaires devraient arrêter de le persécuter comme s'ils étaient toujours combattants.
Les forces de l'ordre utilisent excessivement la force sur les gens à tel point que même les personnes innocentes ont été tuées à côté des combattants et les innocents ont l'impression que le gouvernement ne les soutient pas et donne plus de soutien aux extrémistes.
Les villageois disent que les anciens combattants et otages pourraient toujours être espions au service de Boko Haram. Mohamed Ibn Chambaz, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, estime que les craintes de la population sont fondées.
Ils ont réussi à repousser les Boko Haram sur le plan sécuritaire. Il y a eu des succès remarquables. Et nous saluons tous les efforts fournis par les militaires. En même temps, essayons de résoudre aussi les problèmes de la gouvernance.
Le gouvernement du Cameroun et les Nations Unies ont distribué des semences, donné des chèvres et des moutons et des porcs à ces revenants et demande aux communautés de les accueillir.
Merci Solange.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, vote à l'Assemblée nationale lundi du projet de loi électorale en l'absence de l'opposition qui a boycotté cette initiative. Le projet qui prévoit entre autres une machine à voter et un seuil de représentativité pour les candidats aux législatives ne fait pas l'unanimité même au sein de la majorité présidentielle. Henri Thomas Lokondo, un député de la majorité qui exprime son désaccord, veut saisir la Cour constitutionnelle. On l'écoute.
L'article 118 de la loi que nous avons examinée hier arrête un seuil de représentativité de 1% pour toute l'étendue du territoire national. Cela veut dire que l'indépendant est exclu de la compétition. Or, justement, l'article 111 dit qu'un indépendant peut se présenter. Je me suis posé la question de savoir comment on peut calculer le seuil de représentativité d'un indépendant quand il n'est pas représenté sur toute l'étendue du territoire national. Être de la majorité de l'opposition ne vous donne pas le pouvoir de violer la constitution ou les lois de la République. Bien que, bon, je suis de la majorité, mais laisser passer cet impair là, c'est pas crédible pour la République.
Henri Thomas Lokondo, un député de la majorité présidentielle à Kinshasa, au micro d'Eddie Isango. Proche-Orient, le président américain Donald Trump doit annoncer ce mercredi que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël et envisage de transférer dans cette ville leur ambassade actuellement à Tel Aviv. Réaction dans le monde musulman, les délégations palestiniennes et jordaniennes à la Ligue arabe ont demandé aujourd'hui une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'organisation pour discuter de la décision d'administration Trump, réunion qui devrait se tenir samedi. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan compte organiser le 13 décembre à Istanbul un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique pour permettre aux pays musulmans d'agir de façon unifiée et coordonnée face à ces nouveaux développements. C'est ce qu'a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin. Mais selon le communiqué de la Maison-Blanche, la décision du président Trump ne fait que, je cite, « reconnaître une réalité historique et contemporaine », Jean-Roger Bion.
Oui, mais selon la Maison-Blanche, le président Trump ne fait que reconnaître, je cite, « une réalité historique et contemporaine ». Pour préparer le terrain, M. Trump a appelé hier 5 leaders du Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdullah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Salman d'Arabie Saoudite. Dans son communiqué, la Maison-Blanche donne très peu de détails sur ces conversations, se contentant de dire que les leaders ont aussi discuté de décisions potentielles sur Jérusalem et que M. Trump a réaffirmé son engagement en faveur du processus de paix entre Israël et les Palestiniens et l'importance du soutien à ces pourparlers. Des officiels de la Maison-Blanche ont précisé hier soir que le président Trump reconnaît que Jérusalem est non seulement la capitale d'Israël, mais a été le siège de son gouvernement depuis la fondation de l'État hébreu en 1948. Selon eux, le président américain donnera des ordres au département d'État pour qu'il commence à préparer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv. Il souligne que ce processus prendra des années pour trouver un site, assurer le financement et construire un nouveau bâtiment. Entre-temps, M. Trump continuera de signer la dérogation annuelle, retardant la relocation. Pour leur part, les leaders arabes et musulmans ont averti que toute décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem pourrait enflammer les passions dans la région et détruire les efforts américains pour un accord de paix israélo-arabe.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Écoute ça.